Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Les
tontons.
J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Oh merde !
Les tontons.
La France est un des rares pays au monde à n'avoir jamais cédé à la tentation totalitaire.
Flingue.
L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard, le sarcasme prud'homesque. Mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants.
Oh, ça va atomiser. C'est l'émission des tontons flingueurs.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre, qui, quelle que soit nos dettes, deviendra testament. On vient de vous revoir annoncer tellement sûr votre envie que ça dure en ce mercredi soir. Monsieur le Président, une expérience amère ne peut devenir une terre fertile pour des amants. On ne veut pas vous fâcher, il n'y a plus de méprise. Le masque de la crise vous était destiné. Depuis votre arrivée, se sont vidées les fêtes, se sont remplies les têtes, des acquis reniés, la peur et la méfiance devenues des doctrines, pendant qu'on assassine notre force, nos différences. L'intérêt collectif, celui du plus grand nombre, devenu celui des ombres qui gèrent nos passifs. Pour un billet de banque, soldé tant de pays pendant que vos amis administrent les manques. Bien mieux que les séniles, en ajoutant l'outrance, vous avez vu la France comme une fille facile. Quels que soient nos espoirs, vous resterez bien digne, mais n'attendez pas une ligne dans les livres d'histoire. Monsieur le Président, partez aux USA, ils recyclent les parias avec ou sans bilan. Patron du FMI, comme un ver résident, c'est bien plus motivant que la démocratie. Si vous êtes encore là, dans 6 mois, dans 1 an, encore représentant, vendeur de triple A, comptez sur la mémoire pour vous offrir en grand une fin de président, un soir de grand soir. Bonjour et bienvenue sur les Tontons Flingueurs, salut Marie.
Salut Gilles.
Ce sera la seule analyse que nous aurons de l'annonce de la candidature de Nicolas Sarkozy, donc une annonce extrêmement importante à l'élection présidentielle, et nous parlerons absolument de tout sauf de ça aujourd'hui. Vous êtes en direct en ce jeudi matin, il est 10h02, sinon bienvenue
est,
sur la rediff.
Il est tôt, il est
19h, c'est dur,
c'est dur.
Mais on a quand même des trucs, relativement importants, et entre autres un sujet dont les médias nationaux, que les médias nationaux s'évertuent tu as camouflé, je dirais, qui est un sujet de géopolitique, donc pas toujours facile à aborder, mais que nous ne pouvons passer sous silence, c'est évidemment la situation on dira pas en extrême, en Moyen-Orient, mais plutôt en Extrême-Orient, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer au Liban, en Iran, pardon, excusez-moi quand je dis que c'est
il
dur.
Il est tôt.
Ce qui est en train de se passer en Iran, alors vaut mieux en rigoler maintenant, parce qu'après on va pas rigoler du tout, mais effectivement les rumeurs d'attaques d'Israël contre l'Iran se multiplient. On va essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se prépare, ce qui se précise derrière et surtout les implications, ce que ça sous-entend, ce sera pour la deuxième partie de cette émission. Mais tout de suite, on va parler un petit peu de ce qui se déroule en Europe, un peu plus proche. Alors évidemment, la crise grecque, plus précisément. Alors, on est sorti, la crise est finie, les bourses remontent, plus personne n'en parle, c'est l'euphorie partout, Sarko a sauvé l'Europe, donc tout va bien si on...
Tout va parfaitement bien, sauf évidemment pour nos amis grecs, puisque la zone euro a décidé mardi de reporter encore une fois le déblocage des sous pour la faillite grecque, parce qu'ils reprochent donc aux Grecs de n'avoir pas rempli encore les conditions. Alors les Grecs pourtant qui ont fait quand même beaucoup d'efforts pour que, il y a quand même 230 milliards qui sont prévus pour les aider. Ça avait commencé à être débloqué, mais donc pas assez d'efforts de la Grèce qui doit quand même boucher un trou de 325 millions d'euros.
Et c'est impossible, c'est du domaine de l'impossible. Bah, faut dire les choses.
Si, alors c'est possible. Alors avec des mesures qui sont parce que ça, c'est vrai que moi j'avais pas lu trop de détails là-dessus sur c'est quoi, comment rembourser 300, enfin comment arriver à boucher ce trou de 325 millions d'euros de manière convaincante.
Oui, mais c'est impossible. Hein. Rien que le remboursement des taux d'intérêt, ils sont asphyxiés, c'est un truc injouable.
Eh bien,
c'est une grosse
fumisterie. C'est-à-dire que plus tu serres les... Mais ça, c'est mon... Après, j'ai un truc où je dis ça.
D'accord, bon, alors je te laisse avancer,
si
Marie, pardon.
Faciliter les choses.
Je voulais qu'on rebondisse, mais je vais te laisser rebondir toute seule.
Ne rebondissons pas du tout. Restons linéaires ce matin, merci.
Donc, Marie sur le linéaire de Radio Sainte-Afrique. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez téléphoner au 05 65 49 29 94 en ce jeudi matin si vous voulez faire part de vos avis, ainsi de suite. Voilà, Marie, je t'ai donné l'occasion de te...
de m'exprimer. Alors oui, parce que c'est 325 millions d'euros, donc comme tu dis, ouais, c'est comment, alors comment qu'on fait pour trouver 325 millions d'euros? Eh bien, c'est pas sous les pas d'un cheval, donc, ou d'une mule, je sais plus quelle est l'expression, donc on va évidemment compresser le gars de moyens. Alors par exemple, on a l'abaissement de 22% du salaire minimum. Alors j'ai regardé, c'est quoi le salaire minimum en Grèce? C'était 862 euros brut, ça va passer à 586 euros.
Elle va pas rester grand chose. Hein.
Donc, si vous... Après, quand on dit les Grecs sont des feignasses, nous, on est quand même à 1365 euros. J'aimerais bien qu'on voir le.
Comment ça se passerait en France si on fait la même chose?
Ouais. Si tu dis au gars, bah écoutez, tiens, viens mon gars demain, hein, toi t'as 586 euros. Hein,
mais il y a pas mal de gens, malheureusement, qui vivent avec ça en France. Hein, aussi,
non, mais bien sûr, mais là, c'est bon, c'est le
seuil de tolérance.
C'est le salaire minimum. Entre autres, bon, 15 000 emplois publics qui vont être éjectés dans l'année. Là aussi, j'aimerais bien savoir. Ça serait assez fun de voir comment ça se passe ici, dans l'année, hein, les suppressions. Et puis, la baisse des pensions de retraite, évidemment. Donc,
Ah ben, revotons pour Sarkozy, on va voir très vite, hein, c'est vachement simple. Hein,
ouais, mais c'est des choses, on pourrait s'en inspirer très facilement. Oh, et puis bon, 10% des salaires des régimes spéciaux, militaires, policiers, juges, bon, ça c'est bon, c'est moins grave. Donc c'est quand même des mesures extrêmement difficiles à tenir pour les gens. Et voilà, et les Grecs,
on comprend la révolte quand même, on comprend un peu mieux qu'ils soient allés à la baston, quoi. Hein. Alors ce qui est hallucinant, c'est le traitement, je sais pas si t'as vu Marie, le traitement des médias chez nous. Moi ça c'est un truc qui me fait mais hurler, on a toutes nos bonnes vieilles télé poujadistes là qui ah là là, ils ont attaqué, il y a le feu en ville, la ville est à feu et à sang. Mais il faut bien comprendre, on en parlait hier pendant la préparation de cette émission, que les gens qui se révoltent, il y a une bonne partie, c'est l'élite intellectuelle du pays, quoi. Et ce sont des gens qui sont absolument acculés, comme tu viens de le préciser, au niveau financier, mais c'est pas le seul aspect, c'est qu'on est en train de leur dire, finalement, maintenant vous êtes enferrés, vous n'en sortirez, ils sont pas plus cons que les autres, vous n'en sortirez pas.
Non, il n'y a pas d'avenir, comme tu dis, c'est l'élite. Alors contrairement à chez nous, effectivement, c'est les étudiants, mais les étudiants au niveau qui sont et qui sont à la tête depuis des dizaines d'années des partis
anarchistes, ils les appellent anarchistes.
Quoi. Gilles,
t'as vu, je suis bien réveillé quand même, beaucoup mieux que j'en ai l'air.
Et c'est très étonnant quand on va à Athènes. De voir ça, parce que chez nous c'est réservé à des petites franges d'activistes et non, là-bas donc
il y a de la friture sur la ligne. Bip, bip, il y a de la friture sur la ligne. Philippe, à qui on fait un gros poutou, qui est derrière la vitre et qui se démène pour éviter la friture sur la ligne.
La friture.
Bon, revenons à la position de Merkel, entre autres, parce que c'est assez intéressant.
Ah, mais attends, puis là, moi, j'en peux plus, l'Allemagne, le modèle allemand, mais qu'ils aillent. Moi, je ne veux pas.
Qu'ils aillent se faire. T'as coupé la phrase au bon moment, c'est bien, Marie. Non, Merkel, évidemment, qui n'a absolument pas envie qu'on sauve la Grèce, et à mon avis, qui est même partie pour la plomber sévère. Moi, je vous dis franchement, tel qu'on peut ressentir les choses, et ça paraît assez évident, si jamais on se retrouve avec le binôme, là, des deux petits, là, les deux moitiés qui font un. Si, c'est ça finalement, les deux font l'Europe, les deux font la paire. Bon ben voilà, eux c'est les deux moitiés qui font, et qu'on les renouvelle dans leur mandat dans le pays, puis après au niveau de l'Europe, on peut s'attendre à de sacrés dégâts, parce que Madame Merkel n'a aucune envie de sauver la Grèce, et elle les gens comme les Grecs, si elle pouvait, elle les mettrait dehors à coups de pompe, parce qu'elle rêve d'une Europe avec des pays vertueux, qui vont bien, qui n'ont pas de déficit, ainsi de suite. Alors autre petit rebond, puisque tu es parti sur ce sujet, Marie, on vient d'apprendre évidemment que Standard & Poor's, je crois, non c'est plus Standard & Poor's, c'est l'eau, je m'y perds complètement, Moody's, voilà, venait d'annoncer que à moyen terme, elle envisageait, alors j'adore le terme, moi ce que j'aime c'est le terme à moyen terme, parce que imaginez la carotte, les amis, vous qui nous écoutez là, le moyen terme c'est avant ou après l'élection française, et en fonction du résultat, on va dégrader ou on va pas dégrader? Alors pareil, là on peut s'amuser, c'est hallucinant, c'est-à-dire que ces gens-là, par ce genre d'annonce bidon, vont pouvoir faire flipper une partie des gens qui vont se dire, oulala, mais si c'est Hollande ou si c'est les socialistes, oh mais on va se faire attaquer, Moody's va attaquer la France, ils l'ont annoncé. On est arrivé dans une phase de manipulation où ce sont des instances, j'ai bien dit des instances, j'ai même pas parlé de politique, hein, des instances nationales voire internationales qui vont prendre la décision, ou plus exactement essayer de nous imposer pour qui on doit voter.
C'est le fric-roi, bon ça essayait, tout le monde le dit maintenant, mais
c'est quand même assez impressionnant.
C'est impressionnant, oui.
Autre chose sur la Grèce, Marie?
Oui, par exemple, c'était dans l'IB, ils ont un envoyé spécial en Grèce, et le gars a interviewé le député du parti Nouvelle Démocratie, qui est en tête des sondages, Simos. Alors attention, Simos, il s'appelle Monsieur Simos Kedikoglou.
Oh non, bien.
Merci. Et donc, bah, il est un peu étonné du report de la nouvelle aide européenne et qui redoute une explosion sociale dans le pays. Oui, bah, oh, oui,
pas, ça, du tout. Pas du tout. Non, il n'y a aucun risque. Aucun risque.
Et bon, il dit qu'il y a vraiment, les gens se sentent un peu humiliés, ce qui est normal parce qu'ils ont quand même fait vraiment leur preuve de leur. Ils ont voté le plan, ils ont fait plein d'efforts et l'Europe leur dit que oui, bah, attendez, on va encore attendre un petit peu les petits gars, quoi. Et il dit que l'austérité, ce que tu disais d'ailleurs tout à l'heure, n'est pas une solution, que ça fait qu'aggraver la crise. Alors ça,
ah bah
aussi,
oui,
on l'entend...
Et pas qu'en Grèce, hein.
Voilà, on l'entend partout. Il dit, je cite, « Si on vide nos poches et qu'on ne nous laisse pas la possibilité de les remplir, inutile de revenir 6 mois plus tard pour les vider de nouveau. » En Grèce, le taux d'imposition est désormais de 40%. Mmh. Alors tu vois, avec les mesures qu'on a évoquées tout à l'heure, en plus, 40%, il dit, comment voulez-vous, comment assurer les investisseurs dans ces conditions? Ouais, c'est... il explique aussi à la question de l'envoyé spécial qui demande s'il voterait donc des nouvelles mesures d'austérité. Alors, bon, bien sûr que non, quoi. Il explique que la TVA sur la restauration, ça nous concerne directement, est passée de 13 à 23%. Mmh. Bon, c'est beaucoup, ça fait 10% d'augmentation. Oui, oui. Et le résultat de cette mesure...
S'en fout, ils n'ont plus les moyens d'aller au restaurant, alors, qu'est-ce qu'ils nous gonflent.
Voilà, le résultat de cette mesure de 13 à 23% d'augmentation, c'est que 20% des restaurants et des troquets, ils ont fermé. Hein,
ah bah oui.
Ah bah oui. Et bien du coup, il y a 120 000 personnes qui ont perdu leur job. Et voilà. Et donc l'État, eh ben, il gagne moins qu'avant.
Eh ben, automatiquement.
Voilà,
automatiquement. Non,
super.
Mais ça, c'est la fameuse manière. Le problème va nous concerner également en France. C'est-à-dire que, à force de nous faire croire que le remboursement de la dette, parce que c'est devenu la doctrine qu'on aille de l'extrême droite jusqu'à Bérou, jusqu'à Hollande. Finalement, on peut malheureusement pas l'exclure de cette espèce de mono-analyse tournée vers les marchés essentiellement. Faut rassurer, faut rembourser la dette. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette dette, cette fameuse dette là, on emprunte à qui? On emprunte à qui? À qui on emprunte l'argent? On l'emprunte aux banques, d'accord? Bon, si ces gens ont décidé qu'on ne remboursait pas la dette, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous faire augmenter le taux d'intérêt.
Faisons sauter les
Donc,
banques.
Ne nous leurrons pas entre la Grèce et la France. La seule différence, c'est la thune disponible, pour dire les choses concrètement. Mais sur le fond, on est déjà complètement tenu par les cacahuètes.
Pour
parler poliment, nous sommes déjà complètement empêgués. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que quand un pays comme la Grèce, on arrive à dire, quelles que soient les élections, on arrive à faire signer à des partis politiques et à tous les responsables de partis, à peu près comme si on imposait la même chose en France à tous les candidats à l'élection aujourd'hui, les spéculateurs ont réussi à faire signer les banquiers, enfin les gens, je résume, je synthétise, on va, alors d'autres diront l'Europe, et ben appelons ça l'Europe si ça vous paraît plus présentable. L'Europe a décidé de faire signer à l'ensemble des candidats grecs l'obligation de remboursement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de latitude pour gouverner. Donc à quoi ça sert d'avoir une démocratie et des élections? C'est-à-dire que le type, il soit d'extrême droite, d'extrême gauche, du centre, de gauche ou de droite.
Ce qu'on lui demande, c'est de faire des chèques.
Ferme ta bouche et rembourse.
Ouais,
quoi.
Ouais, ouais.
Donc il faut bien comprendre que c'est à peu près du même niveau et c'est la raison pour laquelle il y a autant de différences entre le programme de François Hollande et de Nicolas Sarkozy. Si des gens se demandent pourquoi finalement la gauche tient le même discours que la droite, ben, vous avez un bon début de réponse.
Voilà.
Nous n'avons plus le choix, sauf à aller vers des discours extrémistes droite ou sur des discours de gauche pro-sortie ou pro, je dirais, allez vous faire foutre, du type de Mélenchon, j'ai bien utilisé ce mot volontairement, du type allez vous faire foutre.
Bah, il est peut-être temps qu'on fasse une révolution, là. Ça fait un peu la première fois, c'était un peu il y a longtemps maintenant.
Bah,
ça serait bien.
Moi, ça fait longtemps que je dis, il y en a qui ont fait des révolutions pour moins que ça.
Bah hein? oui, non, mais là c'est...
Allez, on passe à autre chose que... Non, tu voulais continuer?
Oui, non, tout à fait, non, parce que justement la TVA... Non, c'est pour la Grèce, écoute. Si, je voulais juste te dire que la Grèce aussi, c'est quand même un pays, moi je me sens beaucoup plus proche... affectivement de la Grèce que de l'Allemagne. Et les gens qui croient au modèle allemand, je pense qu'ils n'ont jamais été en Allemagne, parce que l'Allemagne, il y a des gens très sympathiques, en Allemagne c'est pas la question, mais c'est
une
quand même
efficacité
d'un
aussi, ouais.
Sordide, d'une tristesse.
Il faut aller voir les vallées industrielles allemandes, c'est quelque chose.
Ah
c'est
oui,
un
alors
grand
quand on,
de,
quand on nous parle de l'écologie allemande, les gens sont très écologiques, mais c'est un pays qui a été bousillé, industrialisé, épouvantable, et puis surtout là on se sent très latin, hein, le français... se sent hyper latin.
Mais nous sommes latins.
Voilà. Et le grec, il est... Eh bien, et c'est pas du tout un feignant, le grec. Hein. Ça, c'est une espèce de racisme, toujours du nord au sud. Le nord, en ce moment représenté, c'est l'allemand. Ja, que Trafacher, etc. Et le clampin du sud qui prend le rien,
mais,
quoi.
Tu rigoles là-dessus, mais ça va plus loin. Ça va plus loin que ce qu'on veut bien penser. Le problème de la France, c'est d'être entre les deux, dans notre culture. Alors on a toujours cette espèce de regard vis-à-vis des Italiens, des Grecs, des gens comme ça, le français, qui lui oublie des fois son côté latin en se pensant un petit peu plus sérieux, un petit peu plus travailleur, parce qu'il y a quand même un peu de culture celte chez nous, et ainsi de suite. Donc il se dit, oh là là, les latins, oh, ils foutent rien, ces Italiens et tout.
Ah mais attends, le celte, il est bien. Le celte est assez proche du latin.
Attends, en réalité, nous sommes exactement pile entre les deux. Donc on navigue, on pourrait naviguer, on se sent toujours un peu supérieur à ces pays de la Méditerranée, plus travailleurs, machin, ainsi de suite. Bon, alors il suffit qu'on ait un petit enfoiré qui vienne après nous avoir brossé, après nous avoir dit que finalement la doctrine anglo-saxonne américaine c'était vachement bien pour notre culture. Bon, mais il reste à nous faire accepter quoi ? Qu'au sein de l'Europe, il vaudrait vachement mieux qu'on sache regarder vers l'Europe du Nord, avec tout ce que ça peut sous-entendre idéologiquement, que vers la Méditerranée, avec tout ce que ça peut sous-entendre idéologiquement. Et l'air de rien, au-delà du fait de s'aligner avec Merkel pour des questions purement politiques, l'axe franco-allemand tel que Sarkozy et Merkel sont en train de le mettre en place, c'est beaucoup plus inquiétant que ce qu'on est en train de penser. C'est-à-dire que c'est l'axe du Nord de l'Europe. C'est l'axe du Nord de l'Europe.
Et bien quand même, la civilisation au moment... C'est formidable, hein, les Vikings, etc. J'aime beaucoup, mais quand même le berceau de la civilisation c'était clairement la Méditerranée quoi.
Ah ben, au départ,
Bon après ça peut évoluer, mais je pense qu'il y a bon. Après,
allez,
bon,
allez, Marie, ça,
mon cœur.
Nous avons donc parlé de la Grèce. Alors, on va préciser par la même occasion que la rémunération moyenne des dirigeants du CAC 40 dans le même délai a augmenté de 34% en 2010. Je redonne ma phrase parce que j'étais un peu vite. La rémunération moyenne des dirigeants du CAC 40 a augmenté de 34% en 2000 crise.
Philippe
Morgat avec des grands yeux. Tant qu'à faire un lapsus, faisons-le vraiment. Elle est pas mal. À toi, Marie.
Oui, alors exactement. Hein. Mais attends, les pauvres garçons. Après, il y avait eu 3 années de baisse consécutive hein, quand même pour ces patrons du CAC 40. Est-ce que c'est les grands patrons. Est-ce que tu sais qui tient les sous comme ça, le top 10 des patrons français les mieux
payés?
Allez,
vas-y, balance.
Allez, le top 10 des patrons. Alors, il y a monsieur Agon, L'Oréal, qui a gagné quand même en 2010.
Parce qu'il le vaut bien.
10,7 millions d'euros.
Hein, combien
pour l'année 10,7 millions d'euros.
On n'écoute même plus tellement les chiffres qui sont ici.
Alors à peu près c'est dans la même fourchette, je ne vous donne pas le détail parce que ça tombe jusqu'à 4,8. Je vous citerai Bernard Arnault, donc LVMH.
Ah bah oui. Alors lui c'est celui qui rachète les entreprises en difficulté lui. Il est bien quand même, il a une vocation sociale
gentil,
ce mec-là.
Hein, puis c'est sympathique, LVMH, ils sont adorables.
Oh, on les adore.
Adorables. Il y a Renault, alors c'est très bizarre, monsieur, je vais dire une connerie, Gosne, je pense que ça se prononce comme ça. Renault, je ne pensais pas que c'était, je pensais que c'était un peu péclotant.
Pourtant, il n'a pas vendu un disque depuis longtemps. Hein. Bon,
excusez-moi, il y a Dassault Systèmes, Danone, Publicis, Sanofi, Aventis,
alors, amusant,
Lagardère,
Dassault.
AXA et Carrefour.
Oh, Dassault, hein. encore un pauvre. Alors, t'as remarqué que Dassault, comme ça, pareil, juste avant l'élection, il va vendre le Rafale.
C'est pas monsieur Dassault, hein, c'est Dassault Systèmes, Bernard Charles.
Oui, mais enfin bon. Alors, non, je reviens là-dessus, c'est quand même fun. On a vendu des Rafales.
Ah, c'est bien. À qui on a vendu des Rafales hein?
Les pauvres aux Indes.
Oh,
à l'Inde.
Bah oui, avec Gaba, bah oui, ça c'est. Oui. Bah, ça m'étonne pas.
C'est pas mal, quoi. Ah ouais, aux Grecs aussi, on a vendu des Rafales aux Grecs. On n'est pas dans la merde. Quoi d'autre, Marie?
Excusez-moi, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on évoquait tout à l'heure la TVA et l'augmentation de l'austérité. Donc la TVA sociale qui vient d'être adoptée quand même...
Non, maintenant on est allemand, la sociale TVA.
La sociale TVA par l'Assemblée nationale. Donc le truc là, tu sais, on pensait y couper parce que les gars, ils n'étaient pas d'accord. Eh bien non, ça a été voté. Et alors ce qui est formidable quand même, c'est donc ça augmente. Hein. Donc clairement, on se prend 1,6 il me semble dans la tête. On passe de 19,6 à 21,2. Tu fais le calcul, je suis très mauvaise.
19,6 à 21,2, oui, ça fait une belle augmentation.
Ça fait 1,6, c'est ça ?
19,6 à 21,2, 19,6, 26, 21,2. Ça doit faire un truc dans le genre, ouais, c'est pas mal.
C'est ça,
tu calcules
1,6...
bien quand même.
Non, mais parce que je l'avais lu quelque part.
Vas-y, enchaîne.
Donc, ça veut dire qu'on va tout payer 1,6% moins cher. Mais alors,
plus
là,
cher.
On peut... Plus cher, excuse-moi, plus cher. Et alors, mais quand même, on peut être rassuré parce que Bercy dément tout impact significatif sur les prix de cette augmentation.
Ah oui,
alors,
il n'y aura pas d'augmentation des impôts.
Non.
De toute manière, je veux dire, moi, il faut arrêter un peu avec cette espèce de marotte de l'augmentation des impôts. Je trouve tout à fait normal. On sait pas, on s'est fait embringuer là-dessus. Comment peut-on avoir une démocratie sans impôts ? Il faudra m'expliquer un petit peu comment ça peut fonctionner. Il faudra qu'on m'explique comment on peut penser au bien collectif et à la répartition sans payer des impôts. Il faudra qu'on m'explique cette espèce de doctrine qui a consisté, parce que c'est vachement facile de faire accepter à tout le monde en disant oui, mais ce que vous voulez, mon bon monsieur ou ma bonne dame, c'est payer moins d'impôts. Tout le monde va dire oui, bien sûr qu'on veut payer moins d'impôts. Seulement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière cette petite phrase-là, c'est qu'on accepte, elle est induite directement derrière, le fait de ne plus répartir. Si on ne paye pas d'impôts, on ne redistribue plus. Si on ne redistribue plus, chacun pour sa gueule. Alors effectivement, on peut vouloir une société où chacun pour sa gueule paye moins d'impôts. Eh bien écoutez, on va vivre dans un super monde.
Les gens qui crèvent parce qu'ils n'ont pas de couverture sociale, et puis voilà.
Donc moi, quitte à passer pour un démagogue, je veux payer plus d'impôts.
Par contre, voilà. Ça ne me dérange pas de payer des impôts. Par contre, vu ce qu'on paye comme impôts, pour les gens qui ont la chance de payer des impôts, parce qu'encore faut-il effectivement gagner de l'argent. Mais quand on paye des impôts, moi je pense qu'avec ce que les impôts prennent, normalement les clochards devraient être dehors avec des vestes couvertes d'or. Donc il y a un souci évidemment dans qu'est-ce qu'on fout avec ces impôts qui sont énormes en France, énormes quand même.
Particulièrement donc la TVA, puisque c'est ça dont il s'agissait, la TVA qui est un impôt prélevé sur tout le monde et totalement irrégulier. Très souvent vous devez entendre, et ça fait un peu bizarre parce que c'est un mécanisme difficile à comprendre, vous entendez aux informations la TVA touche les plus faibles. Pourquoi? Ça paraît, c'est vrai que c'est des raccourcis quand les médias parlent comme ça, c'est un peu difficile à comprendre. La TVA, tout le monde dans votre tête ou dans notre tête, tout le monde paye la même chose, puisque c'est au moment d'acheter un produit ou un service qu'on la paye. En réalité, ça touche les plus faibles. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui ont le moins à dépenser pour eux. Sur un budget de 1 000 euros, se faire taxer à 20%, c'est beaucoup plus important que quelqu'un qui gagne 10 000 par mois. Voilà. Effectivement, en termes de masse réelle, enfin de montant dépensé, c'est la même chose, mais en termes de proportion. Donc quand on dit que ça touche les plus faibles, l'augmentation de la TVA, c'est évidemment en proportion. C'est une petite précision importante parce qu'on entend souvent ça en ce moment.
C'est
dans
très
les journaux,
inégalitaire la TVA.
C'est un impôt absolument totalement injuste. Maintenant, malheureusement, on ne peut pas l'asseoir sur une assiette de revenus parce que c'est incalculable.
Alors, ils s'en tirent en disant que, si tu veux, les produits de première nécessité sont touchés, ne sont taxés que... Je ne sais pas s'ils sont taxés, s'ils sont taxés que à 5,5. Oui, mais les produits de nécessité...
Il y a même moins cher que ça. Il y en a qui sont taxés à 2,6, même,
je crois. Ah, peut-être, oui, tout à fait. Ouais. Mais je veux dire, les produits de première nécessité, ils tiennent sur les doigts de ma main, quoi. Donc, le mec qui bouffe que de la farine, qu'un œuf, et je ne sais même pas si l'œuf fait partie des produits de première nécessité, d'ailleurs, mais c'est ridicule, quoi. On peut pas...
Mais attends,
c'est le produit de première nécessité de ce pays quand même.
D'accord. Alors Marie, dans le Canard enchaîné d'aujourd'hui, je ne vous ferai que le titre, puisqu'on a dit qu'on ne développait pas sur le hobro aujourd'hui. Simplement, j'ai aimé le titre. Sarkozy a trouvé un nouveau modèle, la campagne de Bush en 2004. Eh ben, pour écouter, s'il y en a qui avaient des doutes, au moins on est rassuré. Ça promet des grands moments. On aura l'occasion de reparler de George Bush dans cette deuxième partie d'émission, c'est-à-dire d'ici quelques minutes, et après la musique, évidemment, je vous rappelle qu'on traitera d'un sujet un petit peu lourd, mais extrêmement important pour les mois et semaines et mois qui viennent, à savoir le risque d'une intervention d'Israël contre l'Iran, avec tout ce qu'il peut y avoir comme impact derrière. C'est même hallucinant que les médias nationaux n'aient pas ça en premier titre depuis des semaines, parce que c'est quand même très très chaud. Ça, c'est pendant quelques minutes. Marie, quoi d'autre avant la ZAC?
J'aurais bien aimé que tu lises là sur la... ça. Regarde, faut que tu le dises, ça.
Ah, faut que je dise quoi?
Ça, là.
Ah,
c'est
oui.
Marqué là. Ça, c'est très drôle.
Juste le titre donc dans le canard, parce que Marie, qui a l'esprit potage des fois, qui a l'humour potache, a adoré le titre du canard enchaîné. Tiens, t'auras du boutin. c'est vrai que le titre est marrant. Donc allez, on parle pas de Nicolas, on va parler donc de Christine. Christine Boutin, qui après nous avoir révélé des foudres qu'elle allait balancer un truc phénoménal, une bombe atomique, si Sarkozy ne l'aidait pas à avoir ses signatures, a finalement décidé de vendre son électorat au bro à talonnette, et on a appris
et
ce qu'on a
Morin
à quoi on avait
aussi formidable
on avait, c'est qui ça et on a appris quelle était la menace de Christine Boutin, c'est-à-dire ce qui nous serait arrivé si jamais elle n'avait pas eu ses signatures. Alors là, je vous dis franchement, on s'est tous mis à transpirer, elle aurait fait la grève de la faim.
Non, c'est pas vrai.
Si, je te jure, c'est vrai. T'étais pas au courant.
Non.
Un truc de
mais elle
fou.
En a besoin, Christine Boutin.
Philippe est mort de rire. Tout le monde est à quatre pattes dans le studio. Je vous raconte pas. Boutin
non,
qui fait la grève de la
faim.
Ah non, puis elle a de la marge. Elle peut la faire pendant quelques mois.
Bah c'est ça, quoi. Attends, elle va tenir. Bon.
Alors, on aurait éventuellement, on aurait pu faire la grève de la faim avec Hervé Morin. Ça aurait pu donner un truc assez.
Bah, hein. Au moins, ils nous font rire, quoi. Ça nous détend dans le.
Non, mais elle a dû négocier, soi-disant, pour les législatives. Mais je suis sûr qu'un petit ministre.
Je comprends pas qu'une femme comme ça, qui par ailleurs peut être sympathique dans la vie privée, mais. qu'est-ce qu'elle fait là, quoi ?
Une femme, prouve-le. Hein. Madame Boutin, qui a dû négocier un petit ministère de la famille, je vous raconte pas qu'avec une équipe de ministres comme ça, l'autre, il part bien tanker en campagne.
Ah ouais.
On lui souhaite bien du plaisir.
Bonne chance.
Allez, on va faire un petit peu de copinage. Donc, Philippe m'a dit surtout, n'en parle pas, c'est un pote à moi, mais ne le dis pas.
Bon, c'est pas grave, j'avais encore un petit sujet, mais c'est pas grave, on en parlera là.
Hein, c'est quoi ton petit sujet, Marie ?
Non, mais de toute façon, j'ai rien. On n'a pas le temps.
C'était quoi ton petit sujet ?
Mais on en parlera, ça fera un sujet d'avance pour dans 4 semaines.
C'est vrai qu'après, Marie part en vacances pendant 4 semaines. Elle ne veut pas payer d'impôts, mais alors.
Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas payer d'impôts.
C'est quoi ton petit sujet ?
Non, c'était juste dire aux gens qu'il y avait les étiquettes sans OGM qui arrivent.
Ah oui, si, tiens, vas-y, fais-le, c'est important ça.
Ouais, mais alors, comme je n'ai pas souligné ce qu'il fallait que je te dise, ça va être assez bref.
Non, donc, si tu commences par la fin, ça va être.
Les étiquettes sans OGM qui arrivent, ça a l'air d'être le sacré bazar. De toute façon, la France n'est pas. Du tout, on ne sait pas, c'est un problème. Vous regarderez hein, sur les journaux, hein, pour ou contre les OGM, on est le cul entre deux chaises là-dessus.
Ça va être encore un gros flanc, ces étiquettes. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont dire sans OGM direct. C'est comme, on va dire, cochon sans OGM. Ouais, va vérifier ce qu'il a bouffé, le cochon, pendant...
Exactement, c'est marqué à l'arrière dans la liste des ingrédients. Et puis ça ne concerne que les yaourts, les œufs. Alors je ne sais pas pourquoi, la blanquette de veau. Pourquoi la blanquette de veau, spécialement ? Voilà, et le fromage.
Bon. Peut-être que notre président aime la blanquette de veau.
Non, mais la blanquette de veau.
Tu parlais d'OGM, on peut rappeler quand même la jurisprudence qui vient de se dérouler et qui est quand même heureusement un petit peu positive, à savoir que les enfoirés de Monsanto viennent de perdre un procès, même s'ils font appel, peu importe, ils viennent de perdre un procès en première instance, face à un agriculteur qui avait été empoisonné par les produits vendus par la même firme, par défaut d'information, peu importe la manière dont elle les attaque, le principal étant qu'on les attaque et qu'ils perdent.
Et qu'ils
perdent. Il y a des petites lueurs de trucs positifs.
Et pour les gens ici qui connaissent bien Cocopelli, puisque tout le monde aime bien Cocopelli en général, qui est un producteur de ceux qui ne connaissent pas, ça s'écrit K-O-K-O-P-E-L-I, 2-L-I. Hein, vous allez voir sur internet, ce sont des graines avec un catalogue fabuleux de plantes oubliées. C'est complètement interdit en France, bien sûr, puisque nous avons le lobby des semenciers. Mais ils viennent quand même ils n'ont pas encore gagné, parce que les autres vont faire appel, les poids lourds des semences, hein, puisqu'il est interdit de commercialiser des semences sans être passé par tout un tas de réglementations. Tout ça, évidemment, étant des lobbies, des tags,
bien sûr, bien sûr, le brevetage.
Voilà, Cocopelli a été condamné à payer 10 000 euros d'amende, mais sans tire. Donc peut-être que la législation va légèrement changer là-dessus. En tout cas, c'est un premier pas vers un peu plus de liberté.
Notre ministre de l'écologie, qui va être extrêmement occupé dans les semaines qui viennent, puisqu'elle sera porte-parole du NABO, n'aura pas le temps de s'en occuper. Donc probablement que dans le programme du NABO, on entendra parler probablement beaucoup d'écologie, comme ça a été le cas pendant 5 ans. Il y a eu beaucoup de décisions écologiques qui ont été prises.
Formidable.
Voilà. Donc, petite précision, on se retrouve dans quelques minutes. On va écouter un titre d'un morceau qui est d'un monsieur qui s'appelle Mark Alberts, From the Coming Album, I Hate Trains, j'ai horreur des trains.
Just cannibals and spies.
Sympa ce petit morceau de Marc Salabert, merci Philippe pour le tuyau. Retour dans les tontons flingueurs, 10h31, je vous rappelle que vous pouvez nous téléphoner au 05 65 49 29 94 avec notre tontonne Marie qui est avec nous.
Bonsoir.
Bonsoir. On reprend cette émission, alors excusez, pardonnez-nous à l'avance évidemment nos voix, nous sommes absolument tous tubards, c'est la saison, c'est comme ça, voilà, donc nous parlerons avec des voix de blues. Deuxième sujet, deuxième gros morceau pendant une bonne demi-heure, n'hésitez pas à nous contacter, c'est un peu compliqué, donc poser des questions, mais on ne peut pas ne pas parler de ça, parce que moi, quand on a préparé cette émission, j'ai titré ce sujet, l'escalade qui va bouleverser 2012. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, absolument toutes les infos convergent sur ce qui risque de se présenter dès le printemps, et peut-être pour certains même plus tôt, à savoir une attaque préventive d'Israël contre l'Iran. Alors, on voit bien que dit comme ça, c'est assez loin de chez nous, ce serait pas la première fois, les Israéliens ont déjà attaqué il y a quelques années de ça les installations nucléaires iraniennes. Et puis le travail de propagande évidemment est tel qu'on voit bien avec Ahmadinejad, le président iranien, qu'on a en face de nous des types qui sont toujours en train de vouer Israël et les Américains aux hégémonies, c'est-à-dire de dire oui, le grand Satan, oui, nous allons rayer Israël de la carte. Et c'est sûr qu'avec des discours comme ça, ça rend pas particulièrement les Iraniens sympathiques. On voulait remettre un petit peu dans le contexte quand même cette situation, parce qu'elle tombe évidemment à un moment qui est pas très sympathique dans le contexte, on va dire. Pourquoi ? Premier niveau d'analyse, l'état des voisins de ces pays-là. Alors évidemment, on a parlé des révolutions arabes. Vous allez voir, quand on a analysé à l'époque, d'ailleurs je me souviens avec Gilles et Alain, à qui on fait un gros bisou d'ailleurs, cette histoire des révolutions arabes, je soupçonne quand même qu'il y ait à terme des objectifs un petit peu camouflés. C'est d'autant plus évident avec ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, c'est-à-dire que la Syrie, évidemment, bon, pareil, là, c'est très difficile de savoir vraiment... Et puis la Syrie, moi
qui joue la blonde, qui suis complètement blonde, c'est vrai que c'est quand même bizarre, la Syrie on ne fait rien. Alors c'est de plus en plus affreux, on lit des trucs de plus en plus durs, les gens se font massacrer les machins, mais alors on ne bouge pas. Hein. On bouge pour la Libye, on bouge pour... Alors là, zéro, on ne bouge pas.
Voilà, alors tous ces sujets paraissent...
Mais on nous dit que c'est moche, voilà. On nous dit que c'est affreux.
Tous ces sujets paraissent a priori dissociés ou dissociables, et en réalité ils sont tous extrêmement liés, et évidemment le lien qui, encore une fois, je parlais de contexte, qui est le plus évident, c'est que tout ça tombe dans une crise économique internationale, et on sait évidemment que des tensions géopolitiques dans une crise internationale ne sont jamais résolues de la même manière que quand tout va bien au niveau économique. Alors, on va essayer d'être un petit peu clair et de vous expliquer, parce qu'on a fait 3 heures de travail, de recherche, de sources croisées sur ce sujet, parce que c'est un sujet extrêmement compliqué.
Tu as fait
nous avons fait. Et puis tu sais que c'est une passion, Marie, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas dire on l'a fait ensemble.
Non,
et,
mais c'est pas drôle.
C'est extrêmement
non,
c'est pas drôle. On est vraiment obligé d'en parler. Alors, la Syrie, pour commencer, tu me disais pourquoi on n'attaque pas la Syrie. Je vais te faire une réponse très brève. Simplement parce que la Syrie, c'est l'armée arabe la plus puissante. Déjà, ça pose un vrai problème. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à la Libye, là. En termes d'armement, ils sont armés et soutenus par les Russes. Il est évident qu'on a une organisation qui est complètement différente. Mais surtout, en plus, en termes géographiques, attaquer la Syrie, aujourd'hui il y a le Hezbollah, il y a des tas de choses derrière autour qui risquent une déstabilisation. On ne peut pas attaquer militairement la Syrie, donc que ce qu'on fait, on essaye de la déstabiliser de l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on...
Et on n'a peut-être pas d'intérêt à attaquer la Syrie non plus, attends.
On n'a pas d'intérêt, ça on va y revenir. Si, on a un intérêt, on va y revenir très vite et on va faire le lien entre la Syrie et...
Il y a du pétrole en Syrie ?
Non. Par contre, ce qu'il faut préciser, la Syrie c'est une espèce d'enclave chiite, dans un monde musulman quasiment entièrement sunnite depuis les dernières interventions ou dès les dernières révolutions. Il faut bien comprendre que dans toutes ces révolutions arabes, on a vu petit à petit le remplacement de certains régimes un peu dictatoriaux, comme c'était le cas en Égypte, ainsi de suite, par des régimes à vocation religieuse. L'air de rien. Les fameux frères musulmans que tout le monde craignait, qui étaient l'axe du mal pour les Américains il y a encore quelques années, sont devenus des interlocuteurs favoris, et on a mis en place et on laisse mettre en place les frères musulmans à peu près partout.
Qui sont donc des radicaux
Ce sont des gens, oui, on peut les qualifier de radicaux. Enfin, extrémiste, c'est peut-être un mot un peu fort, mais enfin, c'est un islam un peu dur, un peu rigoriste. Hein. C'est pas des grands démocrates. Bon, mais on fait le choix quand même, je dirais, d'aller vers des gouvernements et des pays stabilisés par la charia plus que par un régime dictatorial militaire, comme c'était le cas en Égypte. Alors, il est difficile d'anticiper puis de dire ça va être mieux ou ça va être pire. Il y a quand même de gros risques parce que les frères musulmans s'y opposent depuis leur existence, depuis 1929 quasiment. Hein. Donc c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Les Américains et les Occidentaux ont fait le choix actuellement, et c'est également le cas en Syrie. L'opposition actuelle syrienne est composée essentiellement de radicaux, de nationalistes ou de frères musulmans. On est donc en train d'abattre le régime de Bachar el-Assad, qui est sûrement quelqu'un de pas très très bien. Rappelons que le père Hafez el-Assad s'était retourné contre sa population d'une façon hallucinante. Personne n'avait bougé. Rappelons quand même que le fils, il y a encore 10 ans quand il est arrivé au pouvoir, a été présenté comme quelqu'un d'extraordinaire qui avait fait toutes ses études dans les facs américaines avec une femme magnifique d'ailleurs, enfin occidentalisée à bloc. Rappelons, et ce sera son importance dans la compréhension, ils sont en majorité, ce sont des chiites alaouites.
Alors, tu as dit tout à l'heure, tu as dit que la Syrie était chiite et les autres sunnites.
Alors, autour, on a des pays maintenant qui sont de plus en plus sunnites.
Il y a une différence de...
On a essayé, Marie, hier, tu t'en souviens, de faire la différence entre les chiites et les sunnites. Bon, chiite, comme son nom l'indique, ça vient d'un schisme, c'est-à-dire de gens qui ont fait le choix d'une séparation à un moment. Bon, on a simplement, on ne va pas vous faire la totale là-dessus parce que c'est extrêmement compliqué. Il y a quelques différences, effectivement, aussi bien dans la philosophie que dans l'appréhension, je dirais, de leur religion. Ce qu'on peut dire simplement, si vous voulez, c'est que le monde arabo-musulman, c'est difficile parce que, par exemple, les Iraniens ne sont pas des Arabes, mais on y reviendra, mais on va simplifier. Dans le monde arabo-musulman, vous avez d'un côté les chiites et de l'autre côté les sunnites. Il faut savoir que les chiites sont représentés à 90% en Iran, la Perse, anciennement la Perse, qui ne sont pas des Arabes, précisons bien. L'Iran, c'est pas un pays arabe, hein, c'est un pays perse. Bon, c'est complètement différent. Vous avez 90% des chiites qui sont là, une petite partie qui est répartie au Pakistan, et une petite partie qui est répartie, enfin, et une partie importante qui est répartie en Syrie. On va voir l'importance que ça peut avoir
C'est important, on a pas eu le temps de creuser, c'est, on a surtout de vous donner vos fausses informations, mais il y a autant de différences, et sans doute plus, entre un orthodoxe et un catholique qu'entre un chiite et un sunnite.
Ouais, ouais, voilà,
c'est
ouais,
des, ouais. des gens qui partagent une même base, mais qui n'ont pas la même application.
Ils n'ont pas la même lecture, ils n'ont pas voilà, tout hein. à fait les mêmes applications.
Donc et les Iraniens ne sont ni des Arabes, ni les musulmans qu'on connaît le plus, hein, qui voilà. sont, puisque les sunnites, c'est toute l'Afrique du Nord aussi, bien sûr.
Voilà, l'Afrique du Nord est essentiellement sunnite, et puis après, à l'intérieur de la branche sunnite, on a effectivement, on va dire, des variantes extrêmement importantes. On peut prendre par exemple le cas de l'Arabie Saoudite, hein, qui a pris son nom de la tribu des Saouds. Là, on est quand même dans ce qui se fait de plus radical au niveau du sunnisme. On a des gens qui sont pour certains, des salafistes. Enfin, ouais, on a différentes branches. C'est assez compliqué. On a différentes branches également à l'intérieur des sunnites,
d'accord.
plus ou moins radicales. C'est pas trop le propos aujourd'hui. Simplement, c'était important de préciser ça. Alors, pourquoi on voulait vous parler de l'Iran et d'Israël ? Vous venez d'entendre aux infos, et c'est ça qui a hallucinant, c'est qu'on a focalisé que là-dessus. Deux Iraniens ont été inculpés à Bangkok ce mercredi, donc hier, hein, accusés d'être à l'origine d'une série d'explosions dans une affaire qui a été décrite par les renseignements thaïlandais comme un complot qui aurait visé des diplomates israéliens. Alors les suspects, ils ont été arrêtés mardi après des explosions qui sont survenues dans des circonstances quand même qui sont très peu claires au cœur d'un quartier résidentiel de Bangkok. Israël, première réaction, a accusé Téhéran aussitôt, liant les explosions aux attentats de Géorgie et en Inde, parce que de l'air de rien, depuis le début de la semaine, ça a pété un peu partout, effectivement. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a dénoncé devant la Knesset, qui est là, le parlement israélien, les activités terroristes de l'Iran, qui selon lui ont révélé au grand jour et menacent l'équilibre mondial. L'Iran s'en prend à des diplomates innocents à travers le monde. Là, c'est Netanyahou qui parle. Hein. La communauté internationale doit condamner de la façon la plus vive ces méfaits et fixer des limites aux agressions de ce pays, faute de quoi elles s'étendront encore. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette série d'attentats, l'air de rien, l'info a focalisé sur l'attentat. Il n'y a pas un média qui s'est emmerdé, pour parler poliment, à essayer de comprendre ce que ça sous-entend, ça sous-entendait. Hein. Cette série d'attentats, elle intervient un peu plus d'un mois après l'assassinat à Téhéran d'un scientifique iranien. Et alors Khamenei, lui, avait expliqué qu'il est le guide suprême iranien le 12 janvier, c'est-à-dire il y a très peu de temps, il y a un mois, que cet assassinat avait été commis avec le soutien de la CIA et du Mossad, et ça a été confirmé à peu près partout. Quatre scientifiques iraniens
oui, attends,
au total.
Pour les gens qui tombent de la Lune, comme moi, hein, puisque bien sûr l'enjeu c'est que l'Iran n'est pas l'arme atomique, hein, rappelons-le.
N'est pas la technologie nucléaire.
Ouais, excuse-moi, ouais, la technologie
Soyons
nucléaire.
Soyons plus précis.
D'accord, c'est pas la même.
Disons qu'au départ, si vous voulez, si on part de cette logique-là, nous n'aurons jamais la possibilité d'avoir en France de l'électricité, puisque à un moment ou un autre, pour montrer une centrale, on commence par le nucléaire civil et après, éventuellement, on dévie sur du nucléaire militaire. Donc le discours qui consiste à dire l'Iran n'a pas le droit de fabriquer une bombe paraît déjà incohérent dès le départ. La question, c'est est-ce que l'Iran a le droit ou pas d'accéder à la technologie nucléaire pour profiter de l'énergie nucléaire ? Je rappelle quand même que le Pakistan a l'arme atomique et franchement, ça peut nous faire un peu plus flipper. C'est un peu plus instable et un peu plus barge que chez les Iraniens, malgré l'image qu'on s'efforce, et on va en reparler, de nous renvoyer de ce pays qu'est l'Iran. Donc la question effectivement c'est ne laissons pas les Iraniens accéder à la technologie nucléaire. Il semblerait qu'ils soient en phase avancée en termes de recherche de fabrication de combustible, parce qu'on a tendance à dire dans ce milieu que quand on a trouvé la manière de faire le combustible, on est quasiment à 10 ou 15% de l'aboutissement. Mais surtout les Israéliens eux craignent une chose, c'est que les Iraniens d'ici quelques mois, 8 à 9 mois réellement, aient réussi à enfouir leurs unités de recherche et à partir de ce moment-là, elles ne seraient plus attaquables. Donc, le problème c'est ça, il ne faut pas les laisser avancer plus parce qu'il y a un vrai souci. Bon, alors là-dessus on se dit oui mais ça fait un moment que ça gesticule et puis les Israéliens n'iront pas forcément tout seuls, ils ont besoin des Américains, ainsi de suite. Sauf que il y a une campagne électorale aux États-Unis et alors là panique à bord parce que c'est Obama qui est considéré par les Israéliens comme un des présidents les moins favorables à l'État d'Israël depuis des années. Il n'a pas du tout envie de repartir faire une guerre, mais surtout il n'a pas du tout envie qu'on lui pourrisse sa campagne.
Ouais.
Alors qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on ne regarde pas ça en parallèle. C'est que dans la campagne américaine, et personne évidemment va s'intéresser à nous renvoyer ça, les Mick Romney et compagnie, il n'y a pas une journée qui passe sans que dans leur campagne ils disent « Obama est une couille molle, il faut intervenir préventivement contre l'Iran ». Donc ça c'est complètement rentré également dans la campagne américaine. Donc Obama est coincé, et il a demandé aux Israéliens en leur disant s'il vous plaît.
Donc en s'assurant bien sûr le vote des juifs
des plus radicaux aux États-Unis, oui, bien
voilà,
sûr. Voilà,
ils sont super nombreux quoi.
Bien sûr. Alors il faut bien comprendre que si jamais il y avait une attaque avant l'élection américaine, le risque bien sûr majeur étant l'explosion du prix du pétrole, Obama ne serait plus capable de garantir quoi que ce soit en termes économiques dans son pays puisque ça pénalise analyserait intégralement le, puis il n'y a pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, hein, le système économique américain. Donc, enfin bon, tout le monde est extrêmement tendu. Jusque-là, on se dit pas de problème, on en est peut-être aux gesticulations, il n'y a pas de panique à bord. Alors, moi, je voudrais quand même qu'on explique quelque chose, le lien avec la Syrie, parce qu'on a parlé de la Syrie au début. Alors, c'est quoi le lien avec la Syrie? Et bien, on est tombé sur un article du Monde, il y a 3 jours, très intéressant, titré « Venir à bout de Bachar el-Assad pour affaiblir l'Iran ». Tiens, quel rapport il peut y avoir? Sans être la motivation première des diplomaties mobilisées sur la crise en Syrie, l'aspect régional est dans tous les esprits. Un changement de régime à Damas priverait Téhéran d'un allié de longue date au Proche-Orient. L'alliance entre la République islamique et le pouvoir de la famille Assad, qui repose sur la minorité alaouite d'obédience chiite, dure depuis plus de 30 ans. Derrière l'effort conjugué occidental, arabe et turc pour mettre fin au bain de sang en Syrie, les calculs géopolitiques sont bien présents. L'affaiblissement de l'Iran par la perte de la carte syrienne est espéré par les Occidentaux, car cela conforterait leur stratégie sur le dossier nucléaire, mettre le régime de Téhéran sous pression afin qu'il s'engage dans un règlement négocié. Et alors on a retrouvé une phrase de Sarkozy intéressante, dont la diplomatie se veut en pointe sur le dossier iranien. Il y déclarait le 8 février, donc il y a une semaine à Paris, « Un jour, le régime de Bachar el-Assad tombera, parce qu'on ne peut pas massacrer impunément son peuple. Ce jour-là d'ailleurs, l'Iran sera encore plus seul et isolé et affaibli. » Tiens, qu'est-ce que ça vient foutre dans la discussion? Petit rappel d'un article du Figaro, on a croisé toutes ces sources, le 25 mai 2009. Qu'a fait Nicolas Sarkozy? Eh ben, mardi, donc le jour avant le 25, il a inauguré une installation militaire à Abu Dhabi, face à l'Iran, sur les rives du détroit d'Ormuz, au bord de l'océan Indien, la base navale de la nouvelle implantation française militaire aux Émirats, face à l'Iran, est sortie de terre en à peine un an. Ah, 25 mai 2009. Donc attends, je vais jusqu'au bout. Fabriqué donc en mai 2008. Fabriqué en mai 2008, donc ça veut dire décision prise en 2007. Donc Sarkozy est arrivé, il a rejoint l'OTAN, le premier truc qu'il a fait c'est d'aller planter une base militaire française face à l'Iran. Ça doit faire réfléchir tout ça, faut bien qu'on comprenne qu'en réalité ça part de très très loin l'histoire de ce qui se prépare dans les mois qui viennent là. Parce que voilà, il n'est pas question de vous faire flipper, il n'est pas question de mettre de la parano, mais il y a tous les stratèges du pétrole, de la géopolitique.
Oui, parce que l'Iran bien sûr est farci de pétrole.
C'est la quatrième puissance.
Hein, ça c'est non, mais c'est important. Évidemment, comme d'habitude, il y a les Edelweiss. Voilà.
On parle un peu de l'Iran. On présente l'Iran un peu. Ça vaut le coup, Marie, ou pas?
Bah oui. Écoute, qui c'est l'Iran? C'est quoi l'Iran?
Voilà. Eh ben, c'est la 29e puissance économique mondiale. C'est le 4e producteur de pétrole au monde. Et c'est le deuxième Et c'est le deuxième exportateur de l'OPEP. Hein, de l'organisation des pays exportateurs.
Et donc, ils ont en plus, c'est eux qui peuvent, qui ont la mainmise géographique sur le canal.
Ils peuvent être embêtants sur le détroit d'Ormuz, l'endroit où transite 40% grosso modo du pétrole au niveau international. Alors là, c'est même pas la peine. Si l'Iran bloque le détroit d'Ormuz, t'as les avions américains en 12 heures derrière, ils sont sur place.
Non mais géographiquement parlant, voilà, en plus ils ont ce truc, cette carte en main, quoi.
On va situer, pour ceux d'entre vous qui évidemment n'ont pas une carte sous la main, c'est quand même assez marrant, d'ailleurs vous allez vite faire le tilt, l'Iran est coincé entre l'Irak d'un côté... Tiens, il y a eu un conflit en Irak, il restait quelques soldats américains, je crois. L'Afghanistan de l'autre, tiens, il y a eu un conflit en Afghanistan, je crois qu'il est resté quelques soldats américains en Afghanistan. Et puis l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite, il y a quelques bases américaines. Et si on regarde bien, les Iraniens, ça fait des années que sous prétexte de conflits à droite, à gauche, ils se retrouvent intégralement encerclés par des bases.
Et en Turquie, qui est leur frontière du Nord, où tu m'as dit qu'il y avait des bases américaines, chose que je ne savais pas.
Bien sûr, il y a beaucoup de bases de
l'OTAN. Donc voilà, de tous les côtés, c'est bon.
Des bases de l'OTAN, je crois, ou américaines ou de l'OTAN, en Turquie. Mm. Ouais. Alors, on a oublié de dire que l'Iran, c'est également la deuxième plus grande réserve de gaz naturel après la Russie.
Ah !
L'air de rien. Et le sixième producteur de gaz, donc voilà. Alors c'est avant tout quand même, il faut en parler un petit peu, c'est une des civilisations continues, ce qu'on appelle une civilisation continue, les plus anciennes au monde. L'histoire de l'Iran, c'est des milliers d'années, hein. Ça remonte vraiment des milliers d'années avant Jésus-Christ. Donc, alors on a pris que les grandes lignes, parce qu'on ne veut pas vous saouler avec un cours magistral d'histoire, mais quelques grands points comme ça de repère, parce qu'il s'est quand même passé des choses évidemment dans ce pays importantes. L'Iran s'est donc converti au chiisme, on en parlait tout à l'heure, au 16e siècle seulement. C'est-à-dire jusqu'au 16e, on avance. Voilà. Cette conversion résulte d'une volonté de s'affirmer face à la domination des Ottomans sunnites. Tiens, on y revient. L'Empire Ottoman, la Turquie, ainsi de suite. Les sunnites, déjà. Et donc, pour s'opposer aux sunnites, ils voulaient créer une identité iranienne spécifique. Il faut savoir que pendant la Première Guerre mondiale, l'influence des Britanniques a grandi. Très intéressés, nos amis britanniques, par la découverte de pétrole dans un état qui s'appelle le Khuzestan. Donc, ils ont essayé d'imposer un accord qui s'appelait anglo-persan en 1919, refusé par les Iraniens.
C'est, hein, pas comme si les, c'est pas comme si les Britanniques, historiquement, ils s'entendaient bien avec les États-Unis, quoi. C'est pas,
pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout le petit toutou, c'est pas du tout... pas du tout. En 1935, la communauté internationale est encouragée, enfin, et même sommée officiellement de ne plus utiliser le nom Perse, mais le nom Iran. Donc c'est pas si vieux que ça, ils s'appelaient encore les Perses jusqu'en 1935.
C'est dommage, c'était beau la Perse.
C'est joli la Perse.
La Perse, voilà quoi, du coup ça revient.
Et ça vient de Persa, qui est le nom d'une une des tribus fondatrices il y a plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. Interdiction, alors regardez bien, vous allez voir comment la perception peut changer. En 1935, l'Iran déclare l'interdiction du port du voile pour les femmes et l'obligation de porter un habit à l'occidental pour les hommes.
Oui, ce qui est très bizarre, donc ça tu peux même le redire.
En 1935, l'Iran décide d'interdire le port du voile pour les femmes et l'obligation de porter un habit à l'occidental pour les hommes.
Voilà, 1935.
Voilà, vous allez voir, c'est hallucinant comment ce pays, en réalité, était un des pays, on ne peut pas les appeler arabes, mais un des pays les plus ouverts et les plus intéressants en termes historiques et en termes culturels. Et vous allez voir comment on a cessé de leur opposer des fins de recevoir tout au long de leur histoire. C'est assez hallucinant. En 1941, on a un monsieur qui est au pouvoir qui s'appelle Reza Shah. Lui, il veut rester neutre pendant la guerre. Il refuse l'expulsion de ressortissants allemands, alors que la Grande-Bretagne a le contrôle de son pétrole. Donc les Britanniques et les Soviétiques envahissent le pays, forcent le mec à abdiquer, mettre son fils à la place. Alors évidemment, l'occupation du pays, inutile de vous préciser que c'est une importance stratégique majeure pour les alliés. En 43, l'Iran déclare la guerre à l'Allemagne quand même, hein. La même année, la conférence de Téhéran, voire Churchill, Roosevelt et Staline réaffirmaient leur engagement sur l'indépendance de l'Iran, qui devient assez rapidement membre des Nations Unies. Donc l'Iran est membre des Nations Unies à partir de la guerre. On avance, 51. Le Premier ministre, ah tiens, ça c'est un nom qui va peut-être faire tilt aux plus intéressés d'entre vous. On a un monsieur qui s'appelait Mossadegh. Le Premier ministre Mossadegh, plutôt marqué à gauche, plutôt socialisant, hein. Qu'est-ce qu'il fait ce bon monsieur? Le fou, il nationalise le pétrole. Alors là, je vous raconte pas le carnage. Il est éloigné du pouvoir à la suite d'un complot orchestré par les services secrets britanniques et américains qui s'appelait l'opération Ajax, et on met à sa place le Shah. Tout le monde à partir d'ici a entendu parler du Shah d'Iran. Le Shah d'Iran qui était un vrai démocrate, il a mis en place un régime autocratique et dictatorial fondé sur l'appui américain. Alors voilà un exemple typique d'une révolution arabe, c'est amusant de l'appeler comme ça, de l'époque où les Américains et les CIA mettent en place un facho pour pouvoir garder la main sur les hydrocarbures.
En fait, les Occidentaux ont annexé l'Iran pendant la Deuxième Guerre, quoi. Hein,
quasiment. C'est ça. Bon, ça remonte un petit peu avant, mais quasiment. On peut faire cette synthèse. Alors en 63, on a des émeutes dans le pays au cours duquel se fait remarquer un agitateur qui s'appelle Khomeini.
Ouais.
Après des mois après des mois de protestation contre son régime, le Shah est obligé de quitter l'Iran le 16 janvier 1979. Khomeini revient en Iran après un exil de 15 ans et déclare la fin de la monarchie le 11 février, mettant en place à la place évidemment une république islamique avec des théologiens qu'on appelle aujourd'hui les gardiens de la révolution. Et c'est en 79 que la république islamique est instaurée, attention, suite à un référendum. C'est-à-dire que ça n'a pas été imposé par la force, contrairement au Shah. On peut ne pas aimer le régime, mais c'est le peuple qui l'a choisi. Khomeini devient le guide suprême.
Ça n'a pas été très sympa. Disons quand même que l'Iran, il s'est passé des trucs quand même pas très très sympas.
Ah non, ça n'a pas été que clean. Hein.
Ça a été quand même épouvantable. Et ça, on a eu pas mal de trucs dans les médias.
Il y a des attentats, des prises d'otages, des trucs pas clean. Mais il faut voir de quoi elle résulte. Alors là, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on n'en a pas le temps, mais simplement pour te faire une synthèse de la partie, justement, de cette partie arrivée de Khomeini jusqu'à aujourd'hui, et là, il n'y a pas besoin des notes. Il y a eu un extraordinaire documentaire sur ce lundi sur France 3 qui s'appelait L'Iran et l'Occident en trois parties, malheureusement diffusé entre 11h le soir et 2h du matin. C'était absolument génial, tellement c'était didactique, tellement on pouvait comprendre même sans être un grand historien passionné. Et ce documentaire démontre d'une façon hallucinante comment, une fois que Khomeini a été mis à l'écart, on a eu des types plutôt modérés qui sont arrivés, un type qui s'appelait Khatami, un autre qui s'appelait Rafsanjani, c'est des noms qui vont vous faire vous dire quelque chose. Voilà des gens qui n'ont eu cesse pendant tout ce temps-là d'essayer de se rapprocher des États-Unis. Mais quand je dis de se rapprocher, c'est très clair. La meilleure preuve, c'est lors des attentats de 2001. Lors des attentats de 2001, je crois que c'était Rafsanjani à l'époque, a imposé au peuple iranien de pleurer la mort des types qui ont été tués dans les attentats du World Trade Center. C'est inimaginable. Nous, on nous renvoie l'image d'espèces d'agités qui brûlent le drapeau américain. Ce n'était pas du tout le cas. Le problème étant qu'à l'intérieur du pays, Rafsanjani n'était pas soutenu. Il avait d'un côté effectivement des radicaux qui essayaient de le déstabiliser, et le seul moyen de faire tourner l'Iran et de l'amener vers un pays avec lequel on pouvait discuter serait été de le soutenir, les modérés, à ce moment-là. Eh bien, figurez-vous que il y a eu contact avec l'administration Bush au moment des attentats, que quand George Bush a décidé d'attaquer l'Irak, l'Iran s'est proposé pour mettre ses renseignements à disposition des Américains, les services de renseignement refusés. Refuser que, quand même, mieux que ça, il faut bien comprendre que quand en Afghanistan, on est allé soutenir ce qu'on appelait la Ligue du Nord, le président Karzai, aujourd'hui issu soi-disant de la Ligue du Nord. Mmh. Vous vous souvenez que les attentats de 2001, quand même, ils ont commencé par l'assassinat, par l'assassinat du patron de la Ligue du Nord dans un attentat, j'arrive plus à retrouver son nom, le commandant Massoud. Vous savez comment on est allé soutenir la Ligue du Nord? Sur conseil des Iraniens qui ont expliqué aux services secrets américains qu'ils n'avaient pas une chance de foutre en l'air les talibans s'ils ne soutenaient pas la Ligue du Nord. Mmh. Ils les ont aidés, ils leur ont ouvert la porte. Pendant toute cette période, on a essayé de négocier avec les États-Unis. Vous aviez Dominique de Villepin qui négociait pour la France, Jack Straw, premier ministre britannique, qui négociait pour l'Angleterre. Ils ont, après coup, dans ce documentaire de la 3, expliqué comment ça avait été une horreur. Vous avez les Iraniens couvraient les bras, qui disaient aux États-Unis, mais on est prêt à vous aider, faites ce que vous voulez, ainsi de suite.
En fait, les Iraniens qui sont un peu isolés dans ce monde, ils n'ont pas tellement d'amis autour, à part les
poudrière, voilà, ils sont, voilà.
Et donc, ils essayaient de revenir avec les Occidentaux,
Mais plein pot, Alors, je synthétise un peu.
Les Occidentaux les ont envoyés chier, quoi.
Les Occidentaux, Bush les a envoyés chier, mais vraiment, George Bush.
George Bush,
avec un ou deux de ses faucons, les ont envoyés chez pour des questions purement stratégiques, parce qu'il était programmé. George Bush a déclaré, malgré ses aides et au moment où les Iraniens tentaient le rapprochement, a déclaré l'Iran axe du mal. Ouais. Il faut bien comprendre d'où ça part l'histoire. Bon, on avance très vite parce qu'il nous reste quelques minutes. Grosso modo, Khatami, il se plante, il n'est pas aidé. Et on voit arriver un type bien plus radical qui prend le pouvoir que l'on connaît aujourd'hui, Ahmadinejad, qui lui est un vrai radical et qui lui n'a pas du tout envie de traiter avec les Américains.
Et il faut absolument que tu dises dans les minutes qui restent, quels sont les pays autour qui sont en jeu dans ce truc. C'est hallucinant, c'est le monde entier en fait qui est réuni autour de cette...
On vient de faire un bon tour, guerre ou pas guerre. Il nous reste quelques minutes effectivement pour parler de ça avec les implications, guerre ou pas guerre. Et bien écoutez, voilà, on va vous dire où on en est puisque aujourd'hui on a quand même pas mal d'informations quand on va les chercher sur internet. Dans Le Monde du 13 février, il y a eu un article, donc le 13 encore une fois, c'est il y a 3 jours, l'attaque israélienne. Alors il raconte, c'est assez amusant, il raconte qu'en 1980 il y a déjà eu une attaque et que l'ambassadeur d'Israël à l'époque avait été mis devant le fait accompli par les Israéliens qui lui avaient dit mais préviens ton président, Reagan à l'époque, on vient d'attaquer, les avions sont bien rentrés, on vient d'attaquer l'Iran. Et alors Le Monde faisait le parallèle en disant est-ce que ça pourrait arriver aujourd'hui au jeune Shapiro, quel jeune ambassadeur envoyé par Obama en Israël, est-ce qu'il est prévu un scénario militaire ou pas? Alors, comme on vous le disait tout à l'heure, l'administration Obama a demandé au gouvernement israélien de rien faire militairement, affirme des sources diplomatiques et issues des milieux de défense et de sécurité, à la fois côté américain, en Europe et en Israël. Le message américain adressé aux Israéliens est le suivant, ne vous précipitez pas, il sera toujours temps d'agir plus tard, et puis peut-être ensemble, s'il le faut vraiment, grosso modo, attendez, vous avez besoin de nous.
Attendez, après les élections.
Les Israéliens, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, on a une fenêtre de tir qui se rétrécit. Au cours des 6 prochains mois, il faudra prendre une décision. Une non-décision est aussi une décision. Ça se jouera avant la présidentielle américaine. Alors, une petite précision. En 1980, selon le récit que fait dans ses mémoires l'ambassadeur en question, un an avant le raid sur aux Irak, les Israéliens disaient « Soit les États-Unis font quelque chose pour arrêter ce réacteur, soit nous serons obligés de le faire. » Puis, 6 mois avant l'attaque, les fuites dans les médias ont cessé. Plus une seule sonnette d'alarme a été tirée. Et quand on analyse rétrospectivement, c'était l'indice que la décision de bombarder avait été prise. On n'en parle plus juste avant le bombardement.
Ouais, c'est ça. Donc, elles disent plus rien.
Si on suit cette logique, la conclusion à tirer est la suivante. Tant que dans les médias, un buzz se poursuit sur le risque de frappe en 2012, elles ne seront pas imminentes. Le problème étant, c'est que le 6 février, il y a quelques jours, les médias israéliens ont annoncé que Netanyahou avait ordonné le silence à ses ministres à propos de frappe sur l'Iran.
Ça c'est un premier truc.
Les conséquences, parce qu'il y a des gens qui ont anticipé, il nous reste 2 minutes. C'était pas la peine de passer plus de 2 minutes sur les conséquences, ça suffira pour tout le monde à comprendre l'enjeu. Le 5 février 2012, dans un journal israélien qui s'appelle le Gizan Israel News, le Pakistan a prévenu qu'il n'aurait d'autre choix que de soutenir une opération de représailles si l'Iran était attaqué. Le haut commissaire pakistanais en Grande-Bretagne a déclaré le soutien qu'accordera son pays à la République islamique en cas d'attaque d'Israël. Simplement pourquoi? Parce que nous devons garantir nos propres intérêts. Nous avons aussi une population chiite au Pakistan qui ne va pas l'accepter sans protester.
Voilà, le Pakistan qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, a l'arme nucléaire.
Voilà. Selon Mediapart du 11 février, il y a désormais 80% de chances qu'Israël attaque l'Iran avant la fin de l'année, dit-on au Likoud. Barack Obama ne pourra pas en cette année électorale s'opposer à un gouvernement israélien déterminé à détruire les installations nucléaires iraniennes. Selon les déclarations du général chinois, Zhongzhang, le 1er décembre 2011, la Chine n'hésitera pas à protéger l'Iran, même au risque de provoquer une troisième guerre mondiale. Dans ce contexte, le président chinois Hu Jintao a demandé à la marine d'être prête au combat, Le Monde du 6 décembre 2012. Les deux camps se dessinent clairement, d'un côté Israël, les États-Unis, les autres pays de l'OTAN, l'Arabie Saoudite, et de l'autre l'Iran, la Syrie et la Chine.
Et la Russie,
et on peut craindre que l'Inde et la Pakistan. On terminera sur la Russie, il nous reste 20 secondes. Quant à la Russie, eh ben selon le blog Minuit moins une, les analystes n'excluent pas la participation militaire de la Russie au conflit en Iran. Dans le pire cas de figure, si Téhéran était menacé par une défaite militaire totale, la Russie lui apporterait son aide militaire, du moins technique.
Et puis ça tomberait bien une bonne petite guerre pour nos histoires de crise économique chez nous, comme ça on passera à autre chose, on nous ferait un peu peur, ça serait bien.
À ceux qui pensent qu'on n'est que dans les gesticulations, Mediapart nous rappelle pendant ce temps que l'Occident poursuit le déploiement de ses forces dans la région. L'USS Abraham Lincoln, porte-avions des États-Unis, croiseur lance-missiles, le Cap Saint-Georges, deux destroyers, une frégate britannique, un navire militaire français sont allés traverser le détroit d'Ormuz le 22 janvier pour se positionner dans le golfe Persique. Remettez les attentats qu'il vient d'avoir dans ces pays-là il y a quelques jours et vous verrez que c'est absolument hallucinant qu'on n'en ait pas parlé plus. Philippe m'envoie le générique, merci Phil pour ton aide à la technique. Marie, gros bisous. La semaine prochaine.
Gros bisous Gilles, et puis il faut rigoler quand même.
Voilà, la semaine prochaine, une émission spéciale, on vous dit pas laquelle, vous avez qu'à être là. Voilà, bonne journée, salut, bye.
À bientôt.
Il dispense en amende pour la retard. Il a osé me frapper. Il se rend pas compte.